France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Ce n'est pas à Bétaram que nous voulons aller ce soir, pas à Bétaram particulièrement, alors que François Bayrou est toujours devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. C'est auprès de tous les jeunes, d'où qu'ils viennent, devenus adultes aujourd'hui, qui ont mis tant de temps à parler parce qu'ils avaient honte, tout simplement. Autant de victimes qui se reconnaissent entre elles, qui n'ont rien dit quand ils étaient petits sur ce qui leur est arrivé à personne, rien dit non plus sur ce qui est arrivé aux autres, dont pourtant tout le monde a été témoin. Tant que ça tombe pas sur moi, c'est tant mieux, un soulagement qui laisse un sale goût dans la bouche et dont on a du mal à se défaire aujourd'hui en y repensant. La honte, c'est parfois aussi celle des parents. La honte et la culpabilité pour ceux qui n'ont jamais questionné sur l'intérieur. Et quand ils ont su, n'ont pas cru, ou ont jugé parfois qu'une claque ou deux n'avait jamais tué personne et qu'après tout, ils voulaient pour leurs enfants une éducation uniquement pour leur bien. Aujourd'hui, à la faveur de l'affaire Bétaram, on lance des plans pour que la parole de l'enfant soit mieux comprise, pour prendre en compte, surtout dans ces établissements scolaires, ce qu'il se passe derrière des portes, le plus souvent hermétiquement closes. Mais ce qu'on va aussi interroger ce soir, justement, c'est de savoir si cette honte-là n'est pas exactement la même, qu'elle soit de 20 ans, de 30 ans ou de 40 ans. Peut-être l'audition d'un Premier ministre qui est aussi un père est-elle le point d'orgue, le moment clé d'une trop longue tolérance sociale, ce sont les mots d'une sociologue dans Le Monde ce soir. Les viols, on ne veut pas savoir et deux claques, ça forge le caractère. C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Hugues, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Hugues.
Bien écoutez, moi mon histoire elle est un peu différente. J'étais pas dans une école catholique, j'étais dans un petit village de 200 habitants dans la Nièvre qui s'appelle Champlemy. J'ai été élevé par ma grand-mère parce que mes parents étaient en plein divorce, enfin c'était un peu compliqué. Et en fait, je suis tombé sur un maître d'école qui m'a pris un peu comme bouc émissaire pendant 6 ans. Donc avec une envie de destruction plus mentale, avec il y avait également des sévices, mais bon, c'est plus sur la destruction mentale, en voulant me faire avaler jour après jour, qu'en fait si j'avais été élevé par ma grand-mère, c'est que ma mère et mon père ne m'aimaient pas et je n'étais donc pas désiré dans cette vie, et que donc en fait ce mécanisme, avec tous les sévices qu'il a mis en place, m'ont fait accepter pendant tant d'années qu'effectivement qu'il avait raison. Mmh. Bon, voilà.
Et après combien de temps, Hugues, alors, quel est le chemin que vous avez dû faire pour comprendre que vous n'y étiez pour rien, pauvrette?
Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, bon, après, j'en ai parlé quand j'étais un peu plus grand, parce que ensuite, comme ils voulaient me faire interner, effectivement, ma famille a dû réagir. Et en fait, c'est un des membres enfin, c'est le père de mon meilleur ami qui lui a stoppé la machinerie. Mais en fait, lui, ce maître d'école a été protégé par la mairesse de l'époque et également par l'éducation nationale quand ma famille a fait des dépôts de plainte. Et en fait, il a jamais été inquiété. Bon, il est mort aujourd'hui, mais il n'a jamais été inquiété. Et en gros, ce que vous dites, c'est très juste, c'est-à-dire que c'est à l'écoute aujourd'hui de tout ce qui se passe que j'ai réussi tout à l'heure à vous faire un vocal sur le WhatsApp, parce que bon, j'ai 53 ans, mais j'ai fait 30 ans de thérapie sur le fait que mon existence a du sens, mais ça n'a pas été si simple, quoi. C'est vraiment parce qu'il a détruit en fait quelque chose. Enfin, c'est pas qu'il a détruit, mais il a mis en place dans mon cerveau, dans mon inconscient, le fait qu'effectivement, ben, je serais bon à rien, que je ne réussirais rien. Et en fait, ça, si ce témoignage pourra aider d'autres personnes, parce que voilà, moi, j'ai pas été violé, hein, je peux pas dire ça, mais il y a eu des attouchements, il y a eu j'ai été accroché à des anneaux de gymnastique pendant des heures. Enfin, j'apprenais les départements par cœur. Si je faisais une erreur, ben, je devais prendre le nombre de claques face à l'école qui elle rigolait. Et en fait, ça s'inscrit en vous que vous êtes quelqu'un qui devait accepter ce genre de voilà.
Et est-ce que vous avez Hugues, après je vous fiche la paix, je vous le promets. Est-ce que vous avez réussi à en parler alors pour le coup à votre grand-mère peut-être, à quel moment il y a eu le partage de ça avec votre famille et qu'est-ce qu'elle vous a dit, ou est-ce que finalement cette conversation vous ne l'avez jamais eue?
Alors ma grand-mère, j'avais tellement d'amour pour elle que je voulais la protéger parce que pour elle, ma grand-mère, le maître d'école, enfin vous voyez, c'était quelque chose d'important et voilà, donc elle y apporte. Et puis je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je comprenais pas pourquoi ce genre de choses arrivait. Et puis lui, derrière, il avait un discours qui faisait que je devais accepter ce genre de choses parce que si jamais j'en parlais à ma grand-mère, elle allait être malheureuse et ainsi de suite. Donc j'étais bloqué en fait. Et quand j'en ai parlé à ma famille, je pense que à l'époque, j'ai pas pu leur donner les détails de tout et ça a été très compliqué pour eux d'imaginer que tout ça ait pu exister. Je pense que ça a été compliqué. Je veux incriminer personne, mais je pense que ça n'a pas été simple.
Merci beaucoup, merci pour ce témoignage, Hugues, et merci pour cette entrée en matière du téléphone sonne autour de la table ce soir et pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Joëlle Sicamois, bonsoir.
Bonsoir.
La directrice de la Fondation pour l'enfance. Il y a Carole Damiani, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en psychologie, directrice de l'association Paris Aide aux Victimes. Joëlle Sicamois, dans son temps à se reconstruire, après ce qu'il a vécu, dans la difficulté à en parler, dans la culpabilité à en parler aussi, et dans cette phrase que je trouve tellement mignonne, au fond, j'avais tellement d'amour pour ma grand-mère et pour elle, l'instinct était placé si haut que je n'osais pas en parler. On a l'impression qu'on peut le mettre, pardon de le dire comme ça, Hugues, dans beaucoup de cases, notre auditeur, en fait.
Oui, c'est vrai. Enfin, il y a énormément de choses qui résonnent dans le témoignage de Hugues. Effectivement, cette notion de c'est un sachant, c'est quelqu'un qui est censé accompagner l'enfant avec bienveillance. C'est une figure, en fait, d'autorité, de respect. On a ça dans le cas, par exemple, du docteur Le Squarnec en ce moment, dans cette affaire. C'est-à-dire que c'est impossible que ces personnes puissent faire du mal.
Le Squarnec qui a été accusé de plus de 300
victimes,
viols.
La majorité sont des mineurs. Et effectivement, cette phrase, on l'a entendue énormément dans les témoignages. Ça n'était pas possible. Ensuite, on voit les dégâts que ces violences... Alors là, on voit qu'il y a des violences psychologiques, des violences physiques qui sont considérables. Et on voit le temps de réparation qui est nécessaire. Et j'insiste aussi sur les violences psychologiques. Parce que l'auditeur dit « Bon, j'ai pas vécu de violences sexuelles. » Mais en fait, il s'agit pas d'hiérarchiser les violences. C'est-à-dire que tout type de violence peut avoir des impacts sur la vie à très long terme.
Ce que j'entends aussi dans ce que dit notre auditeur, Carole Damiani, c'est effectivement le temps que ça prend, c'est jusqu'à quel point il était ancré dans son esprit que de toute façon, puisque c'était le sachant qui lui disait, il valait rien en fait. C'est 30 ans pour notre ami Hugues pour comprendre que bien sûr qu'il vaut quelque chose.
On rencontre beaucoup de victimes effectivement qui mettent énormément de temps à pouvoir parler parce qu'ils ont cette image aussi qui plane au-dessus d'eux, qui est cette image quasiment de toute puissance. De toute façon, quand il a essayé de faire ce qu'il dit quand même, c'est que pendant que ça se produisait, il a essayé de parler, mais il n'a pas été entendu. Il y a quand même quelque chose qui nous alerte, c'est que sa grand-mère était certainement très bienveillante avec lui, mais quelque part, il était isolé, il n'avait pas ses parents près de lui. Donc, il était une cible privilégiée. C'est-à-dire que celui qui l'a agressé, pour lui, c'était open bar par rapport à cet enfant.
Je m'interroge également, puisqu'on parle de cette honte et cette culpabilité, sur l'humiliation devant les autres dans la classe. Et je suis à peu près persuadée qu'ils étaient parfaitement horrifiés eux aussi, mais que la peur, c'est aussi ceux qui regardent et la culpabilité, la difficulté, Joëlle Sicamois, c'est aussi ceux qui regardent, ceux qu'on prend à témoin en fait, dans ces affaires-là.
Oui, et puis il ne faut pas sous-estimer l'impact que ça a sur eux également. Il y a aussi la peur que ça change d'enfant.
Ouais,
on n'a pas envie que ça nous arrive, et donc il y a cette espèce d'instinct de protection, et on rigole parce qu'on a l'impression qu'il faut rigoler, mais en vérité,
on
en soi,
la tête
on souffre.
En disant, pourvu que
en soi, on souffre énormément et on souffre de voir l'autre souffrir. Les enfants sont des êtres empathiques. Donc c'est certainement des impacts aussi sur eux aujourd'hui.
On va écouter Eric, justement, qui est psychothérapeute, et j'ai une autre question pour vous, évidemment, derrière. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bon, je vais essayer de ne pas laisser les émotions trop déborder. Je suis entièrement d'accord avec ce que disent vos invités. Là, il n'y a pas de palmarès des violences, médaille d'or, de bronze ou d'argent. Et qu'on a eu les violences physiques, psychologiques et sexuelles, ben là, on a le jackpot. Mais ce que ça crée d'abord, c'est du déni et de la dissociation. Hein, je l'ai vécu moi-même. Hein, je suis sorti de la dissociation à 38 ans après la naissance de ma fille, qui a été la plus belle chose qui nous soit arrivée.
Respirez un grand coup, Eric.
Oui.
On est avec vous.
Merci. Et pour moi, enfin, ça s'inscrit dans un problème structurel. Notre société est extrêmement violente avec les enfants. J'ai eu plusieurs patients qui étaient à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance. Ils ont tous été victimes de violences dans leur famille d'accueil. Et ces violences sont niées, voire amplifiées par le dysfonctionnement des structures. Et on ne propose pas de solutions de psychothérapie adaptées dans ces cas-là. Parce que parler à quelqu'un une demi-heure par semaine dans ces cas-là, ça marche pas, quoi. Mmh. Et c'est comme ça que ça se poursuit, que ça donne des gens qui sont dissociés, qui sont dans le déni, qui sont coupés d'eux-mêmes, qui sont coupés de leur respect, de leurs limites, et qui du coup ne respectent pas aussi la vie à côté d'eux, la nature, l'écologie. Et qui sont aussi dans des addictions qui provoquent des dégâts catastrophiques, quoi.
Merci pour votre témoignage, Eric. Respirez encore, ça va aller. Moi, ce qui me chagrine terriblement à chaque fois, Carole Damiani, et ce qui est fou, c'est que Eric, il est devenu psychothérapeute. Enfin, je veux dire, il sait exactement non seulement ce qui lui est arrivé, il sait en parler aux autres. Et quand il en parle lui-même, à nouveau, ça redevient compliqué. La question que j'allais vous poser avant, c'était de savoir si toutes ces histoires, qui sont souvent des histoires qui sont lointaines, si réellement, dans la société telle qu'on la vit aujourd'hui, on pouvait les revivre. Et Eric a répondu à la question en deux temps, trois mouvements.
Alors, en tout cas, ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est qu'il parle de cette dissociation, ce déni, c'est-à-dire que ce qu'on rencontre très souvent chez les victimes, c'est pas un oubli. Ce genre de choses s'oublie. Quand on interroge véritablement les victimes, elles n'ont pas oublié, mais elles l'ont mis un petit peu.
Elles l'ont rangé.
Elles l'ont rangé quelque part, et surtout, elles l'ont déconnecté de leurs émotions. Comme quelque chose, une image un petit peu banalisée qui est dans un coin et tout d'un coup elle prend toute sa force et toute sa violence à un moment signifiant, là c'est la naissance d'un enfant, et c'est là que tout ressurgit et que ça fait très mal. Ça ne veut pas dire, le fait que cette image soit mise de côté de cette façon, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas active. Ça ne veut pas dire que parce qu'elle est déconnectée des émotions, elle ne fait pas des dégâts. Ce qu'on voit bien à travers ce témoignage, c'est tout ce travail, toute cette atteinte psychologique qu'il y a en profondeur, et c'est pour cette raison que la prise en charge ne peut être que pluridisciplinaire. Mmh. C'est pas comme un événement, comme un viol par une personne extérieure chez un adulte, où c'est quelqu'un qui est quelque part construit, qui va avoir un événement et on va reconstruire ce qui a été détruit à ce moment-là. C'est tout qu'il faut reconstruire, c'est tout qui est atteint. C'est l'estime de soi, l'image de soi, c'est aussi toute la régulation émotionnelle, c'est son rapport aux autres. Donc ça veut dire que le travail, c'est un travail long, douloureux, et il faut s'y mettre à plusieurs. Si nous, on ne coordonne pas aussi, la difficulté des soins d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont très souvent clivés par petits bouts, et qu'on a du mal de cette façon à prendre les personnes en charge.
Joël Sicamois, bien sûr que des violences, il y en a encore aujourd'hui, et c'est vrai aussi que les témoignages qu'on entend, ils ont 20 ans, ils ont 30 ans, ils ont parfois 40 ans. Ce qu'on essaye de régler, et depuis toujours, j'ai l'impression, c'est le cas aussi depuis Betaram, c'est de raccourcir ce temps-là. Et moi, je voudrais comprendre pourquoi ça ne marche pas. Il y a des choses qui ont été lancées, plus d'inspections, plus de contrôles, etc. Changement dans les pratiques. Est-ce qu'on arrivera un jour à réduire terriblement ce temps-là?
Alors, on y arrivera, d'autant plus qu'on changera totalement notre perception de l'enfant. C'est-à-dire que si les enfants ont du mal à parler, c'est aussi parce que on est dans une logique éducative où on ne recherche que l'obéissance de l'enfant. Mmh. Et quand on recherche l'obéissance de l'enfant, eh bien finalement l'enfant apprend d'une certaine façon, et j'y mets certaines nuances, à se soumettre à l'autorité, à obéir. Et donc sa parole, le crédit qu'on donne à sa parole, il est assez faible. Et dans tous les domaines d'ailleurs. Et donc tant qu'on ne laissera pas les enfants participer à la vie citoyenne, tant qu'on ne les considérera pas comme des citoyens détenteurs de droits en tant qu'enfants, pas en tant que futurs adultes, ben on aura du mal à faire diminuer ce temps.
Ils ont des droits, normalement, ça existe, les droits de l'enfant, Joël Sicamois.
Ah, ça existe, il y a une convention internationale des droits de l'enfant, et puis c'est surtout que arrêtons de considérer l'enfant comme un être en devenir. C'est aussi un être qui est là aujourd'hui, et tant qu'on ne recherchera pas à changer notre regard, eh bien on aura du mal à faire évoluer sa capacité aussi à prendre la parole.
Vous pensez que l'image du professeur, ça peut être aussi celui du médecin, mais peut-être celle du prêtre d'ailleurs, donc vous disiez le sachant tout à l'heure, ça pour le coup ça a encore la vie dure et ça existe encore. C'est, vous dites même que c'est presque un modèle qu'on nous a vendu, c'est aussi ça qu'on nous a vendu en fait, tu dois respecter cette personne, évidemment qu'il faut toujours la respecter, hein, on est d'accord, on va pas cette idée du sachant contre laquelle donc on ne se tourne pas et qui ne peut pas avoir tort, ça existe encore.
Mais disons qu'en
et surtout
fait...
vis-à-vis des parents en fait.
On assimile encore beaucoup le respect à l'autorité, alors qu'on pourrait assimiler le respect à la confiance. Si le respect se fait dans la confiance, eh bien, il n'y a plus cette peur de parler à un sachant ou d'un sachant, puisqu'il y a une confiance qui est instaurée. Et donc, on peut s'exprimer de façon beaucoup plus facile. Mais oui, c'est encore très présent.
On a Fanny sur WhatsApp qui dit ceci, dans les années 70, je prenais des coups sur les doigts de mon instituteur avec une règle, et là aussi c'était ce qu'on nous avait vendu en effet à l'époque, hein, de mon instituteur, donc il se moquait de moi devant tout le monde, il me le traitait de nul, je ne l'ai jamais dit à mes parents par honte. Plus tard une institutrice m'a dit que comme c'était un collègue évidemment personne ne disait rien, et j'en voudrais toujours à l'institution de l'avoir protégée. Moi je me demande au fond, et vous allez me dire si j'ai tort, Carole Damiani, peut-être que ce qui change avec ces histoires-là, avec les histoires de Bétarame, etc., c'est précisément ça, en fait. C'est que l'institution peut être remise en cause aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas pendant tellement longtemps.
C'était parce que c'était pas simplement l'affaire d'une personne. C'est-à-dire que très souvent, ces violences étaient systémiques. C'est-à-dire que les uns couvraient les autres. Même les parents, parfois, il y a eu quand même des situations où des enfants parlaient à leurs parents et les parents disaient « mais tu racontes n'importe quoi ».
C'était
si ça se sait. Et si ça se sait, c'est nous qui allons avoir cette image. Donc il y avait aussi une pression de la part des parents eux-mêmes, qui n'était pas un secours pour l'enfant. Ce qui change aussi, c'est le travail qu'on fait auprès de tous les enfants, c'est-à-dire que c'est l'affaire de tous. Il y avait une loi à l'école qui était la loi du silence. On disait à un enfant, il ne faut pas rapporter. Il ne faut pas dire, il ne faut pas dénoncer. Et ce qui fait qu'on ne fait pas la différence entre la loi du silence qui protège le mafieux, l'agresseur, et la loi du silence qu'il faut lever parce qu'il faut protéger un autre enfant. Et c'est vrai que parfois c'est trop lourd, la parole pour l'enfant qui est victime. Et qu'en revanche, il est aidé aussi par les autres enfants. Je me souviens d'être intervenue en début d'année dans une école où ils disaient, on demandait qui c'est le plus fort, ah ben celui qui agresse. Mmh. Et puis on a travaillé toute l'année avec eux, et à la fin de l'année, on leur a dit qui c'est le plus fort, c'est celui qui dénonce, c'est celui qui parle. Et c'est à ça qu'on doit aboutir, c'est-à-dire que les autres aussi sont un soutien pour celui qui est victime, et qui ne vont pas être du côté du bourreau, qui ne vont pas être des complices actifs, ou des complices fascinés aussi parfois.
Je voudrais revenir sur l'institution Joëlle Sicamois et au fond sur ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. Jusqu'à quel point, là c'est un Premier ministre qu'on entend, alors c'est pas en tant que Premier ministre aujourd'hui qu'il est entendu, mais au nom de ses fonctions qui sont des fonctions précédentes, mais qui étaient de très hautes fonctions, c'est aussi d'ailleurs un père également. Je me demandais jusqu'à quel point ça avait de l'impact, ce genre de choses. Et c'était ça, au fond, l'idée qu'on peut aujourd'hui remettre en cause non seulement l'institution, mais aussi tous ceux qui la protègent derrière. Jusqu'à quel point ça, c'est bien loin du symbole.
C'est extrêmement important quand même de comprendre que tout le monde peut être redevable, toutes les institutions sont redevables de la protection des enfants. Ce qui est intéressant aussi, parce que j'ai un peu écouté le démarrage de cette audition, c'est qu'il se présente au démarrage également en tant que père. Mmh. Et en fait, on voit bien aussi toute la difficulté à réussir à avoir une réflexion collective sur le sujet qui permette de sortir de sa propre histoire, de son propre déterminisme, de son propre vécu et de son rapport à l'éducation propre. Et n'importe quelle personne, quand bien même il est Premier ministre, eh bien, il est aussi d'une certaine façon prisonnier de cette éducation et de son histoire.
Dans le téléphone sonne, nous sommes avec Joëlle Sicamois, qui est directrice de la Fondation pour l'Enfance, avec Carole Damiani, qui est docteure en psychologie et directrice de l'association Paris Aide aux Victimes. Et nous sommes aussi avec vous, Madia, bonsoir.
Bonsoir Fabien Tinter et bonsoir toute l'équipe et vos invités.
Merci beaucoup, on vous écoute Madia.
Merci de me recevoir en ligne. Oui, alors voilà, moi je vais apporter mon témoignage sur la honte, parce que ça c'est la chose la plus terrible qui se passe en nous quand on est victime d'agression sexuelle ou de viol. Voilà, moi j'ai été agressée sexuellement par mon beau-frère, qui même jusqu'à 18 ans me harcelait, me pourchassait, m'a même demandé de coucher avec lui. Enfin, mais bon, pour en revenir sur le ce qui s'est passé, j'avais 10 ans et demi, 11 ans, j'étais malade, j'étais au lit, j'avais 40 de fièvre, il n'y avait pas mes parents, il y avait que ma sœur et mon beau-frère à la maison. Et donc il se lève d'un seul coup, il surgit sur moi et il me plaque, il me tient comme si quelqu'un, comme s'il me ligotait, mais avec d'une main il me tenait comme s'il m'avait ligoté, et de l'autre main il me déculotte et il m'a battu comme plâtre en prenant tout son élan, je le revois encore. J'avais beau me débattre, de toute façon j'arrivais pas à bouger. Je voulais lui donner des coups de pied, je voulais me défendre, mais bon. Et si vous voulez, après coup, moi ma réaction c'est de dire bon papa, de toute façon mon papa il venait de faire opérer l'estomac, en plus ouais. À l'époque c'était une intervention, il était en convalescence.
Donc on veut pas déranger Madia, c'est ça que vous dites en fait.
Voilà, oui, si vous voulez, non, mais voilà, bon, déjà de toute façon, dire bon. Et quelqu'un à qui je pouvais parler, c'était mon papa, parce qu'on avait vraiment une très très belle relation. Ouais. Oui, mes parents. Et en fait, excusez-moi.
Vous étiez partie sur la honte, Madia. Pardon, je vous remets un peu sur vos rails. Je comprends que c'est parfois compliqué.
Oui, merci. C'est pas évident. parce que oui, le temps est court. Hein. Et si vous voulez, alors là, après coup. Donc j'ai dit bon, je le dirai plus tard, je trouverai le moment opportun pour en parler. Et ça a mis du temps. Alors j'en ai parlé à maman, j'étais déjà en couple. Quand j'ai dit bon, ben voilà ce qui se passe.
Ah oui, je le dirai plus tard. Ça veut dire que ça a duré plus. Ça se compte en dizaines d'années. Je le dirai plus tard.
Ça se compte en années, son harcèlement, parce qu'il m'a mis mon père. Enfin, il a réussi à à brouiller mon papa avec moi. Enfin, il allait vraiment, il utilisait tous les moyens pour me voilà. Comme il n'arrivait pas à obtenir ce qu'il voulait. Puisqu'à 18 ans, il m'a demandé de coucher avec lui. Patin couffin, ni bon, passons. Et maman, elle m'a dit, écoute, ne dis pas à ton papa. Oui, j'avais 21 ans. Ne dis pas, ça va faire des histoires. Alors bon, j'ai dit, c'est pas vraiment la bonne interlocutrice. Ouais. Et je trouverai le moment.
Pardon, Madia, de vous interrompre, mais est-ce que vous avez trouvé le moment? Est-ce que vous en avez parlé à votre père? Ou finalement, ça reste un non-dit et ça ne s'est jamais produit?
J'en ai parlé, effectivement, quand je lui ai dit, papa, écoute, voilà, je voudrais te parler et j'ai quelque chose d'important à te dire. Mon papa, il était déjà bien âgé. Hein. C'était en 80.
Et donc, ça fait combien de temps après, pardon, et après, je vous lâche. Hein. C'était combien de temps après?
Combien de temps après, quand j'ai réussi à en parler à papa? Moi j'avais 11 ans et après moi c'était en 97.
Donc ça fait une paire d'années en tout cas. Madia, merci beaucoup pour votre témoignage. Il y a deux choses que je retiens dans ce que nous dit Madia, Joël Sicamois, c'est ne le dis pas parce que ça va faire des histoires, je le dirai plus tard, et puis finalement c'est sur les doigts des deux mains qu'on compte les années du plus tard, et puis ça va lui faire tellement de peine en fait, en ce moment il a d'autres chats à fouetter. Et ça, j'imagine que dans la tête de tous les enfants, il y a quelque chose comme ça qui passe, en fait.
Les enfants ne veulent pas faire de mal.
Ni de peine.
Ils ne veulent pas le faire de mal, ils ne veulent pas faire de peine. Ils veulent protéger aussi leurs parents parce qu'ils sentent bien, ils ont ce sentiment que ce qu'ils vont révéler va créer quelque chose, va être une forme de tsunami qui va évidemment amener certainement à une crise, à des ruptures au sein de la famille. Et les enfants n'ont pas du tout envie de ça. Ce que je retiens aussi, c'est que cette dame en a parlé à sa maman, et alors que souvent, quand on dit « j'en ai parlé, on ne m'a pas entendu, j'en ai plus jamais parlé », elle a quand même eu le courage derrière d'en reparler une seconde fois à son papa, alors que ça a dû être extrêmement difficile et qu'elle avait déjà reçu une fin de non-recevoir. Donc on voit toute la difficulté aussi à préparer les enfants à se dire « je suis dans mon droit et surtout, je n'ai pas à avoir honte, c'est moi la victime dans cette affaire ». Et je fais un parallèle aujourd'hui aussi avec le programme EVARS qui va être mis en place dans les écoles et qui est censé amener les enfants à comprendre où se placent les curseurs, où se placent les limites et à quel point on voit que dans ce type de cas, ça va être important parce que ça va accompagner les enfants.
Il y a une auditrice sur WhatsApp qui nous dit, elle s'appelle Cécile, et qui dit juste merci de parler de ce truc dément, de l'obéissance absolue. absolue de l'enfant, en fait. Et elle est c'est un peu une ligne de crête aussi, hein, l'obéissance de l'enfant, parce qu'il faut bien que l'enfant obéisse malgré tout, mais jusqu'à évidemment un certain point, on est sur une ligne de crête un petit peu, Joëlle Sicamont.
Oui, je vais repréciser un peu ce propos, effectivement. Bien sûr qu'un enfant, il faut qu'il obéisse à certains moments, notamment dans des cas qui concernent des problèmes de sécurité. Ce qu'on dit juste, c'est ça ne doit pas être la seule visée dans l'éducation. Le but d'une éducation d'un enfant ne doit pas simplement être d'obtenir le fait qu'il soit obéissant. Et on le voit bien. Vous pouvez discuter dans n'importe quel cadre amical, familial. La réflexion qu'on va avoir très souvent, c'est « Oh, qu'est-ce qu'il est sage, cet enfant !» Dans une volonté positive. Alors que, est-ce que ça cache pas peut-être parfois quelque chose, une incapacité à s'exprimer, une peur d'être spontané? Finalement, la sagesse chez l'enfant, c'est pas forcément quelque chose de toujours positif.
Il y a Patrick qui nous dit ceci. Quand j'étais enfant, en primaire, au collège, lorsque je prenais une punition, voire une claque d'ailleurs par un instituteur, c'était il y a longtemps, hein, nous dit-il, mon père informé par l'école doublait la peine parce qu'il était obsédé de ma performance scolaire. Et c'est des choses, Carole Damiani, qu'on a beaucoup entendues, notamment autour de l'affaire Betaram et les affaires qui ont suivi Betaram, quelque chose qui dit « j'ai voulu te donner une éducation, j'ai voulu que tu sois tenu, j'ai voulu te donner le meilleur, en quelque sorte ». Est-ce qu'on l'entend toujours, ça?
On l'entend beaucoup moins, et heureusement, c'est-à-dire qu'on est sorti de ce mode éducatif qui était très vertical et très peu à l'écoute des besoins réels de l'enfant. Et pour revenir à ces besoins réels de l'enfant, la sexualité, c'est quelque chose qui renvoie à la honte, à l'intime, le plus intime. C'est très paradoxal pour un enfant de parler de ce qui est le plus intime chez lui. C'est pas évident du tout. Il y a des moments aussi pour le faire. J'ai eu en suivi un certain nombre de jeunes filles ou de petites filles qui ont été victimes de violences sexuelles et pour lesquelles c'était pas le moment d'en parler. Et le seul travail qu'on pouvait faire avec elles, c'était de nouer un lien de confiance et sans jugement surtout. Sans jugement. Et elles sont revenues à 20 ans, à 25 ans, quand c'était le moment, quand elles étaient suffisamment étayées par un compagnon, par exemple, ou parce qu'elles-mêmes avaient récupéré un petit peu d'estime d'elles-mêmes. Et là, c'était le moment, elles pouvaient faire quelque chose. Donc, de dire à un enfant, tu dois parler, c'est pas toujours le bon moment. Donc, il faut être très attentif à l'enfant et lui offrir l'espace dont il a besoin. Même si on parle des fois de la pluie et du beau temps, on parle de la pluie ou du beau temps, mais on parle d'autre chose en même temps. Et ça, c'est important quand même. Et derrière l'éducation qui était celle d'avant, il y a un certain nombre d'années qu'on a connues chez certains, effectivement, la seule chose que l'enfant avait à faire, c'était tracer une route bien droite et surtout pas s'en écarter.
Eh ben justement, on a Jean-Claude qui est là. Bonsoir Jean-Claude.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, eh ben écoutez, mon témoignage, il est simple, hein, j'ai 68 ans. J'étais dans une école publique dans la Loire et... Oui, les coups étaient, moi je dirais, fréquents. Hein. C'était des baguettes, il y en avait deux. Je me souviens d'un instituteur, je ne citerai pas son nom, mais il y avait une baguette plus souple sur les doigts. Il y avait un bâton plus long et on tapait avec ce bâton. Par la suite, j'ai connu aussi un instituteur qui giflait, mais oui, à volo, hein, ça tombait. On tirait les cheveux, on tirait les oreilles. Ça a continué en collège,
les oreilles, moi aussi, j'ai connu.
Toujours dans le public, oui, des baffes qui tombaient, des tirages d'oreilles. Donc moi, ce que je pense, c'est que ça faisait partie de l'éducation, malheureusement. Est-ce que ça m'a touché personnellement? Moi, je pense que j'étais un laborieux, je le suis toujours d'ailleurs. Hein. Donc j'avais des difficultés à l'école et ben, j'avais peur d'aller à l'école tout simplement, hein, j'avais peur d'attraper des coups. Alors par la suite, je me suis rattrapé, j'ai fini chef d'établissement d'un lycée à l'école privée sous contrat, mais bon, j'ai eu une carrière et il m'a fallu moi dans mon parcours professionnel me remettre en cause et revoir mes principes d'éducation. Et vous en avez témoigné, hein, vos invités en témoignent, et repartir sur des bases. Il m'est arrivé de donner des coups de pied au derrière en début de carrière, quoi. Donc je recopiais ce que j'avais subi. Voilà,
Merci beaucoup, Jean-Claude. Je vous ai vu réagir, voilà. Carole Damiani. Je le trouve très touchant, Jean-Claude. Cette idée de dire... Il y a deux choses qui me touchent, en fait. C'est pas le premier à nous dire, ça a été compliqué pour moi, mais j'ai eu une carrière. Donc il y a cette idée, ils le disent tous, en fait. Il a fallu que je prenne sur moi, ça a été compliqué, j'ai dû comprendre des choses, mais à un moment... merde, je valais quelque chose et j'ai fini par m'en rendre compte.
C'est-à-dire qu'on en revient toujours à ces concepts de honte ou d'atteinte à l'estime de soi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les coups. Ils racontent tous les coups, mais derrière les coups, il y avait aussi beaucoup de paroles dévalorisantes qui allaient derrière. Tu ne feras jamais rien, si on ne te coache pas de telle façon et de telle façon, de ta vie, tu n'en feras rien, il te faudra toujours un balai pour, dans ta vie professionnelle, etc. Et ça, ça atteint presque plus que les coups eux-mêmes, ces paroles qui accompagnaient les coups. Et pour s'en sortir, pour se dire « je vaux quelque chose », il faut une certaine force quand même. Et il y a un certain nombre qui arrivent à s'en sortir tout de même, mais il y en a qui restent sur le carreau, qu'ils ont intégrer effectivement qu'ils ne vaudront jamais rien.
Jean-Claude, il dit, en début de carrière notamment, il a fallu que je comprenne qu'il ne fallait pas que je fasse la même chose, hein, même si je pense qu'il n'en était pas là. Mais tout de même, on a Lydie qui dit au lycée, c'était il y a 35 ans, j'ai vécu des humiliations, des sévices physiques sans que mes parents s'en offusent parce qu'on m'avait envoyé là pour me redresser. Et à l'époque, personne n'a été vraiment choqué. Quand je montrais mes bleus sur mes cuisses, notamment, personne n'était choqué réellement. Heureusement, les choses changent et c'est là-dessus que je voulais venir quand même, Joëlle Sicamois. Bien sûr qu'il n'y a plus de sévices aujourd'hui. Est-ce qu'on dit la même chose au fond des sévices psychologiques, par exemple, qu'on raconte beaucoup? Est-ce que le harcèlement psychologique, y compris de la part du sachant, comme vous disiez, ont remplacé ce qu'était autrefois les coups de baguette des années 60 ou pas? Alors, pas partout, heureusement, hein, mais...
Ça a quand même bien progressé. Hein. Aujourd'hui, on voit aussi qu'on a beaucoup travaillé sur la question des compétences psychosociales à intégrer dans les cadres pédagogiques des enseignements dès le plus jeune âge. Donc, on ne valorise plus que la performance académique, mais néanmoins, on voit à quel point ça reste quand même
surtout chez nous, c'est un truc très français de privilégier ça.
C'est un truc qu'on a du mal à remettre en question, et finalement on va quand même toujours dans la classe valoriser celui qui va être le plus performant dans son résultat scolaire, alors qu'on va peut-être moins valoriser celui qui va, alors qu'il a terminé son devoir, aider son voisin, ou être en attention de celui qui est peut-être en souffrance en ce moment, et finalement, ces enfants-là, quand ils grandissent, ils sont peut-être pas les meilleurs académiquement, mais ils ont des compétences et des qualités qui, même dans la vie professionnelle, sont peut-être davantage valorisées et davantage recherchées.
Est-ce qu'on parle de signaux, Carole Damiani, pour le coup, qu'on apprend, qu'on a appris aujourd'hui à repérer précisément pour que, si on se projette 35 ans en arrière et qu'on voit rentrer d'un établissement comme Bétarame un gamin ou une gamine, son père ou sa mère en arrivant voit des choses qu'on n'a pas vues à l'époque?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque nous faisons des actions de prévention dans les écoles, on inclut toujours aussi les parents dans ces actions de prévention, parce que ce sont les premiers à repérer ces signaux d'alerte, encore faut-il qu'ils les décodent. Certains enfants envoient des signaux qui sont très clairs, d'autres sont plus beaucoup plus discrets dans leur façon. Et ce qui est ennuyeux, c'est qu'il y a très peu de signaux dont on peut dire, celui-là, on est sûr, il se passe quelque chose. C'est parfois très multiforme. Un signal peut être là, ou son contraire, et ça veut dire la même chose. Donc c'est pas évident du tout de pouvoir... C'est un faisceau parfois de signaux qui vont alerter. Et ce sont souvent les proches de l'enfant, pas obligatoirement les parents. Les parents sont pas toujours les meilleurs à décoder les signaux. Ce sont parfois les copains, les copines, la mère de la copine, parce que la copine en a parlé à sa mère. Donc c'est tout un ensemble, c'est une communauté, c'est-à-dire qu'on doit sortir aussi de quelque chose d'individuel. Autrefois, il y a 20, 30 ans, etc., on disait c'est une affaire de la personne elle-même ou de sa famille. Maintenant, il faut que ça sorte de la famille, justement.
On a Dolores sur WhatsApp qui dit ceci, elle a raison. Est-ce que quand même on va dire que c'est incroyable qu'il n'y ait plus de psychologues scolaires depuis longtemps, dans beaucoup d'écoles, qu'il n'y ait plus de médecins scolaires, que les enseignants sont livrés à eux-mêmes et que malgré ce qui va être mis en place par les enseignants eux-mêmes, sans forcément qu'il y ait de psychologues, encore une fois, est-ce qu'on va pouvoir entendre le cri d'alarme qu'on pousse depuis des années en tant qu'enseignant pour écouter la parole des enfants? On a fait justement aujourd'hui même des sujets sur France Inter, Joëlle Sicamois, sur le manque de médecins, le manque d'infirmières, le manque de psychologues, enfin... elle a raison, Dolores.
Oui, elle a raison. Et puis, il y a un point aussi qu'il faut souligner, c'est la nécessité d'accompagnement de tous ces personnels. Parce que aujourd'hui, on pointe du doigt l'institution. Mais ce qui se passe aussi, c'est que la majorité des violences que subissent les enfants, elles se font dans le cadre familial, elles se font auprès des personnes qu'elles connaissent. Donc, il y a aussi les enseignants qu'il faut accompagner dans leur capacité à détecter les difficultés auxquelles peuvent être livrés les enfants. Et pour ça, il faut des formations, il faut des sensibilisations et il faut de la confiance.
Est-ce qu'on dit qu'il y a eu, que nous sommes dans un MeToo enfant, au fond, en ce moment, et qu'il en sortira forcément quelque chose, Joël Sicamois ? Est-ce que vous l'identifiez comme ça ?
Je l'appelle de mes voeux, qu'on soit dans un MeToo enfant.
C'est-à-dire que c'est pas le cas, à votre avis ?
Je ne ressens pas aujourd'hui un vrai secouement de la population française face à toutes ces révélations. Et on voit encore qu'on a encore beaucoup de difficultés à se dire on n'en est pas au niveau du féminisme. Les violences faites aux femmes aujourd'hui...
Ça veut dire qu'il faudrait que ce soit la société là-dessus. Vous dites que c'est pas l'institution qui doit se rendre compte qu'on est dans un MeToo enfant.
C'est collectif. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de considérer ce que disait... Madame tout à l'heure, ce sont les parents qui sont responsables seuls de l'éducation de leur enfant. Nous sommes collectivement responsables de la protection de tous les enfants de notre société.
Il nous reste très peu de temps. Votre avis là-dessus, Carole Damiani, est-ce qu'on est rentré dans un MeToo enfant, dans quelque chose dont on sortira meilleur ou pas ?
Le MeToo féministe s'est appuyé sur les femmes elles-mêmes. Là, les enfants n'ont pas cette force non plus. Donc c'est à nous aussi de créer le mouvement. On ne peut pas l'attendre des enfants.
Bah écoutez, espérons, en tout cas croisons les doigts pour qu'on soit là-dedans et qu'il en sorte réellement quelque chose de positif. Je vous remercie chaleureusement toutes les deux vraiment et vous tous bien sûr pour vos nombreux appels. Et on sait que parfois sur ces sujets c'est difficile et comme d'habitude vous le faites. Merci beaucoup.